Ok. Ouais, donc moi, c'est le premier titre que j'ai choisi, c'est Shine On You Crazy Diamond. C'est sur l'album Wish You Were Here de Pink Floyd. Qui est un album que j'ai découvert à l'adolescence, quand j'avais 16 ans peut-être. Et qui m'a extrêmement influencée, surtout pour... J'ai choisi Shine On You Crazy Diamond vraiment parce qu'il y a genre 4 notes qui se glissent dans le silence de l'introduction musicale, qui sont pour moi les 4 notes les plus magiques de toute l'histoire du rock'n'roll, qui sont genre des... François n'est pas d'accord avec moi, visiblement.
Vas-y,
c'est fou. Développe. Non, en fait, tout le titre, je trouve vraiment que tout le titre repose sur ces 4 notes-là qui sont développées pendant toute l'intro musicale, qui est extrêmement longue. Et après, la chanson commence avec le chant, etc. Mais tout le titre repose là-dessus. Il finit par ces 4 notes-là. C'est un titre qui est en 2 parties, une au début et une à la fin. Et de l'album, je veux dire. Et c'est vraiment des notes magiques. Alors on va parler en termes techniques, il y a une quinte suivie d'une quarte augmentée et c'est super beau quoi, fait à la guitare avec une reverb. Non mais c'est super beau, ça, à chaque fois que je l'écoute, même encore aujourd'hui j'ai le frisson et Dieu sait que je l'ai écouté en boucle pendant des années et des années. Et ouais, Pink Floyd, bon après pour élargir, Pink Floyd c'est des artistes qui je pense ont énormément influencé la musique, y compris la musique moderne, notamment des groupes comme Air ou... Enfin, je pense pas offense si je cite Pink Floyd comme leurs influences. Je pense qu'elle, de toute façon, elle est assez claire comme influence. Mais même dans un côté un peu planant et tout. Ouais, dans Virgin Suicide, il y a vraiment clairement une influence à Pink Floyd, à la The Wall. Voilà, Wish You Were Here, The Wall. Ouais, voilà, mais c'est vraiment des artistes qui ont influencé le rock un peu psyché, sans aller trop loin dans le psyché quand même, mais voilà, avec des sons super intéressants et qui, comme les Who, ont utilisé les premiers synthés analogiques qui étaient faits à cette époque-là. Et voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Ce qui, voilà, bon, ça c'est pour les Who, mais dans Pink Floyd, ils ont utilisé beaucoup ce genre de choses.
On a dit 4 titres chacun.
Je sais, mais c'est vrai que ça commence à être 3 titres.
C'est difficile de choisir 4 titres, donc
on en place un petit.
Dans les explications, on en place d'autres. Voilà.
À toi, Pierre.
Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus, on va dire, personnel dans le sens où ça fait appel à mon enfance et c'est un morceau de classique. Et c'est Sonate au clair de lune de Beethoven. Et pour la petite histoire, c'est mon papa qui me jouait ça au piano quand j'avais, je sais pas, 6 ans ou même plus jeune, je sais pas. Et ça m'a un peu marqué. Des fois on se demande pourquoi on fait de la musique et je pense que ça vient de là aussi parce que forcément soit on en écoute et enfin, en général il y a quand même un lien avec la famille, les parents proches, voilà. Exactement. Et ce qui est intéressant, enfin, vu que j'ai essayé de creuser un peu parce que je suis pas, j'écoute pas une classique beaucoup maintenant, mais il y a une petite anecdote sur ce morceau-là de classique. En fait, Beethoven, déjà il n'aimait pas trop cette sonate-là. Il en préférait d'autres. Je crois qu'il ne l'aimait pas parce qu'elle a plu. Et il y a un auteur allemand qui l'a justement surnommé Sonate au clair de lune 5 ans après la mort de Beethoven. Parce que lui, ça lui faisait penser à genre une barque qui était sur l'eau et au clair de lune, machin. Et en fait, pour Beethoven, c'était pas du tout ça. Je crois que c'était des fantômes qui étaient enchaînés et qui allaient au château, je sais pas quoi. Donc c'était drôle, la différence de l'interprétation des deux personnages, en fait. Voilà, premier
bien.
Titre.
François ?
Bon alors, rien à voir, encore. Moi c'est un morceau qui s'appelle Gloria, d'un groupe qui s'appelle Them.
Je connais pas.
Ouais. C'est bizarre, qui est un grand classique, repris dans tous les cafés, concerts. Non mais c'est vrai, c'est un morceau... D'ailleurs c'est marrant parce que c'est un morceau que Patti Smith a repris sur l'album Horses, et qui est vraiment magnifique, la version elle est vraiment géniale. Et moi c'est tout simplement simplement le premier morceau que j'ai appris à jouer à la guitare. Que dire, c'est vraiment, ça tourne en trois accords. Donc c'est vraiment les premiers accords, mi, ré, la, que j'ai réussi à enchaîner. Et je me souviens, il y a mon père, il y a mes parents à l'époque, dans la cuisine, et mon frère. Et je me demandais même s'il n'y avait pas Johan. Et il m'avait montré ces accords-là.
Et accords.
Je crois que c'est mon père qui m'avait montré. Alors c'est là où j'ai un petit doute, mais je crois que c'est mon père. Mon père m'a montré ces trois accords et je me rappelle, je me souviens, j'étais dans le salon, j'écoutais cette musique, donc Gloria, et putain, mais j'avais vraiment. Je m'entraînais vraiment à le faire, je sais pas comment.
T'avais quel âge là?
Là, j'avais 5 ans.
Oh la vache!
Ouais, j'avais 5 ans.
Ouais, bon, ça va.
5-6 ans.
Ça va.
Mais non, mais j'ai baigné dedans, moi, c'est un univers, j'ai eu la chance. Non, c'est vrai?
Non,
avec des. Non, pas du tout, c'est vraiment un. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui écoutait des bonnes musiques, mon père quand il venait de temps en temps à la maison, et puis ma mère qui évidemment avait tous les vinyles, et puis Johan aussi qui a été aussi une influence, qui m'a montré beaucoup de choses par la suite. Et du coup, dès que j'ai réussi à enchaîner ces trois accords de Gloria, j'ai couru dans la cuisine, je suis allé voir mes parents en leur disant « mais putain, mais ça y est, j'arrive à le faire et tout ». Alors je sais pas ce que ça donnait, mais voilà, c'était les trois premiers accords d'ailleurs. C'est très marrant parce que quand j'avais donné des cours de guitare après, et je trouve que c'est commencer par ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est vraiment des accords un peu plus classiques, c'est une structure, on va dire, relativement blues. Et je trouve que c'est cette musique-là qui, du moins pour la guitare, hein, pour un guitariste, qui est, on va dire, essentielle. Donc voilà. Et puis, ouais, c'est une très bonne base. Et puis. C'est pas un titre que je vais réécouter tous les jours là actuellement, mais
c'est plus trop le jouer quoi.
Ouais, je sais plus jouer. mais c'est un titre ouais, qui m'a marqué parce que c'était mon premier titre. Voilà. Bon, bah, je te laisse parler du deuxième, Éléonore.
Oui, d'abord, je vais rectifier une petite erreur technique, n'est-ce pas, que j'ai faite. Ce ne sont pas dans Shine On You Crazy Diamond une quinte suivie d'une carte augmentée, mais plutôt une quinte suivie d'une sixte. Voilà, je voulais juste le dire.
Bien sûr, en plus, c'est vrai.
Oui, en plus, c'est vrai. Tant, 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 tant. Bon, enfin, bref, peu importe. Mon deuxième titre, c'est Blackbird, des Beatles. Ouais. En fait, il figure sur l'album Blanc. C'est un titre qui, pour l'auditeur qui l'écoute pour la première fois, peut sembler très simple. Enfin, je veux dire, il y a juste un merle qui sifflote et Paul McCartney qui chante avec, en gratouillant sa guitare. Mais en fait, il y a un métronome.
Ouais, je crois qu'il y a un métronome.
Ouais, je crois. En tout cas, moi, je me souviens surtout du petit merle qui sifflote. Et en gros, je l'ai choisi parce que c'est un titre qui peut surprendre par sa simplicité, mais en fait, qui est un titre qui est... déjà, j'aurais pu citer n'importe quel titre des Beatles, parce que j'ai écouté tous les Beatles en long, en large et en travers. J'adore les Beatles, j'adore la période, le début, les années 60, j'adore les années 70, et j'adore même le tout début des années 80 pour les carrières solo de Paul McCartney et de John Lennon. J'adore tout des Beatles. Et il faut dire que Blackbird, c'est un titre qui peut paraître simple, mais qui est extrême. Non, pour le mec qui l'écoute lambda, qui connaît pas bien la musique, honnêtement, c'est un titre qui peut paraître très simple parce que très peu arrangé, parce que c'est une petite bluette, enfin un truc un peu sur un petit oiseau qui quitte sa maman. En fait, c'est un titre très riche, harmoniquement parlant, et dans la composition, enfin qui est vraiment super riche, et qui m'a énormément influencé de par la... En fait, il représente vraiment le mec des Beatles pour qui j'ai... plus particulièrement un faible. En fait, c'est Paul McCartney qui m'influence beaucoup dans le groove de sa voix, la façon qu'il a et la chaleur de son timbre vocal, la façon qu'il a de faire d'empouler un peu d'une façon super gracieuse ses mélodies. Enfin, j'adore. C'est vraiment celui des Beatles qui me touche le plus. Voilà. Et donc, voilà. En plus, c'est le seul titre que je sais jouer assez mal à la guitare. Donc, c'est le seul. C'est pas compliqué.
Assez mal, non, je dis pas assez vrai pour assez mal.
Si, mais... si, assez mal, tu peux le dire. Je joue assez mal. C'est le seul.
Disons que c'est le seul. Non, tu joues bien.
Voilà.
Mais moi, je vais avancer chronologiquement. J'étais à mon enfance, là j'avance un peu plus. On va dire la préadolescence, l'achat de ma première cassette.
qui a été un album de Bob Marley, qui s'appelle Uprising, et bon, l'album je le connais par cœur. Il y a une chanson que j'aime bien, pas forcément plus qu'une autre dans l'album, mais ça s'appelle Forever Ja. Parce que ce qui est drôle, c'est que c'est une chanson que j'ai. Je crois que c'est un samedi après-midi, j'écoutais la radio. Non, je crois que c'est un samedi parce qu'un jeudi j'étais à l'école. Et j'ai appelé une radio en fait de la radio de Châteauroux. C'est une émission de dédicace. Et je dis allez, tiens, je suis appelé. C'est la seule fois où je l'ai fait d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez me passer tel titre de Bob Marley, d'ailleurs pas vraiment connu en fait ce titre. Et en fait j'étais content parce qu'ils l'ont fait, et ça m'a un peu marqué. Et pour revenir à cette musique là, je sais que j'écoutais beaucoup de reggae à une époque. Bob Marley, c'est, je pense que c'est l'emblème du reggae précurseur. Enfin, voilà, il a des mélodies incroyables, il a un groove incroyable. J'ai vraiment eu ma période de reggae, de... voilà. Donc ça fait partie aussi de mon apprentissage musical.
Pour le deuxième titre, j'ai choisi un titre de Neil Young qui s'appelle « The Needle and the Damage Done ». C'est une chanson qui se trouve sur l'album Harvest. Bon bah Harvest, j'imagine que tout le monde connaît, enfin ceux qui connaissent Neil Young du moins, et même, c'est, tout le monde a entendu j'imagine ces chansons. C'est le seul titre de l'album qui est enregistré en fait guitare-voix en live. Bon bah j'ai pas grand chose à dire sur sur le titre en lui-même, parce que c'est tellement émouvant. En fait à chaque fois que j'écoute ce titre, ça me rappelle en plus ça me rappelle chez moi quand j'étais gamin, encore une fois. Ça m'évoque plein de souvenirs. C'est assez personnel, mais en même temps, c'est un album très connu, donc tout le monde, j'imagine, a entendu au moins. Même si c'est pas la plus connue d'Harvest, hein, évidemment. Mais voilà, à chaque fois que j'écoute sa voix, son jeu de guitare, je trouve que tout est génial et voilà, ça me procure énormément d'émotions. Et je dirais aussi juste un truc par rapport à mon jeu d'acoustique, ça m'a énormément. Énormément influencé en fait. J'adore ce jeu de guitare acoustique. Parce que plus été connu en faisant des plans de blues ou tout comme ça, mais le jeu d'acoustique, ce jeu, du moins son jeu à lui, m'a influencé pour. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans Rococo, au début, quand on a commencé à jouer ensemble tous les trois, déjà d'une part, on avait repris, rappelle-toi Léo,
à l'époque,
on avait fait. Out on the Weekend, ouais.
Out on the Weekend de Neil Young. Et on a toujours composé aussi en faisant des titres guitare-voix. Donc je dis pas que j'y pense à chaque fois, mais en tout cas ça m'a influencé dans le jeu. Voilà, tout simplement.
Okay. Alors, le troisième titre en fait c'est Too Young de Phoenix. Phoenix, puisqu'ils écrivent ça. À l'anglophone, n'est-ce pas, à l'anglo-saxonne.
F-O-E.
Hein ? Bien sûr, Phoenix, ça s'écrit E, le groupe, ça s'écrit P-H-O-E.
Ah, tu me prends pour un
P-H. Non, désolé, je croyais que tu disais.
C'était une blague, F-E.
J'avais pas compris. Non, parce qu'en français, ça s'écrit.
F-O-E.
Non, parce que en français, on écrit ça P-H-E. Bon, enfin bref.
Elle a F-O-E en plus.
Mais oui.
C'est P-H.
C'est enregistré.
N'oubliez pas un P-H.
Tout est enregistré. Bref, c'est génial. C'est la peinte.
Enregistre, hein.
C'est la peinte.
Donc c'est bien un F-O-E, c'est ça?
C'est absolument un F-O-E. Bref.
Donc P-H-O-E.
Donc P-H-O-E. Vous ne
connaissez pas?
Non. Et en fait, Phoenix, pour moi, c'est un groupe fondateur des années 2000 parce que, en gros, cet album-là, je l'ai découvert sur la bande originale du film de Sofia Coppola, le deuxième très connu, là, Lost in Translation, merci. Ça a été genre un choc. Et je disais que c'était un titre pour moi qui était fondateur des années 2000, puisque c'est Phoenix. En gros, moi je trouve qu'ils ont vraiment inventé un truc novateur eux et toute la bande des R, tous les Versaillais, la R, Daft Punk, tout ça, ils ont vraiment... Déjà, c'est vraiment la bande de Frenchie qui a carrément séduit et conquis le marché américain, ce qui est quand même une espèce de... Ouais, voilà, c'est ça, mais aux États-Unis, ce qui est quand même carrément un super challenge, parce que concrètement, les Américains, déjà, c'est difficile de leur faire écouter ce qui sort de leurs frontières. Mais là, carrément, des Frenchies qui chantent en anglais et qui séduisent un public américain, c'est carrément... Bref, du coup, je trouve qu'ils ont... Et puis alors, au-delà de ça, musicalement parlant, Phoenix, ils ont vraiment inventé un style, quoi. Ils ont inventé un style. Je veux dire, il y a quand même des groupes genre Tudor Cinema Club qui, et comme Vampire Weekend qui reprennent des petits rythmes afrobeat et tout ça, machin. Je tiens à dire que Phoenix l'a fait en premier sur leur album United, avec le single du même album qui s'appelait, je sais plus comment, j'ai un doute, bref. Moi, celui qui m'a marqué, c'est Too Young, parce qu'ils ont cette espèce de culture du riff hyper prononcé et hyper... c'est marrant parce qu'en parlant, il y a Tudor Cinema Club qui passe sur le... voilà. Bref, ils ont vraiment cette culture du riff qui reste en tête. C'est pas les mélodies de Phoenix qu'on retient, c'est vraiment leur riff, c'est hyper efficace. Et le mec, il a pas un accent génial, mais on s'en fout. Il a pas, ce qu'il raconte des fois, c'est limite incompréhensible, mais c'est pas grave, on s'en fout aussi. Voilà. Et pour moi, ils font vraiment partie d'un courant fondateur des Frenchies qu'on souhaite exporter, etc. Et c'est hyper important. Voilà.
À moi.
À toi. Ouais.
Moi, j'avance encore dans le temps, enfin, je me rapproche de maintenant et j'arrive à l'époque lycée et je parle des Cure, pour ceux qui sont un petit peu mathématiciens, ils vont savoir l'âge que j'ai. Une chanson de l'album Disintegration qui est sorti, je l'ai noté, je sais plus quand, en 89. Et je pense à Lullaby, mais j'aurais pu en citer d'autres parce que ils ont sorti quand même quelques perles à l'époque. Quoi dire là-dessus, j'adore le son du groupe, j'adore le chanteur et je crois qu'en fait c'est inconsciemment c'est ce groupe-là qui m'a donné envie de jouer de mon instrument, à savoir la basse. Parce qu'il y a... c'est assez simple, ils ont un son de malade, de son de basse de malade qui est assez typé mais qui me plaît. Et assez mélodique aussi en fait. Mais ça, les Cure, c'est après la première cassette, je pense que c'est ma deuxième cassette que j'ai eue, tu vois. J'ai dû avoir Face, l'album Face, The Head on the Door, je crois. Et avec un pote, on écoutait ça à fond. Ouais. Super bon.
Tiens, mais c'est marrant, Pierrot, parce que.
Oui,
j'ai eu. Les mêmes influences.
Alors, oui, j'ai écouté tiens, aussi. Juste pour. Vas-y. Par rapport à ce qu'on fait actuellement, je pense que ça nous a effectivement influencé pour le groupe. J'ai un côté rock dans Rococo qui peut être. Mais même au niveau des sons et tout comme ça.
Les trucs qui reviennent.
Ouais, je pense qu'il y a. Voilà. Y a notamment sur une chanson. En fait.
Bah sur Bedtime Story.
Sur Bedtime.
C'est ce que.
C'est tout à aller dire, pardon.
C'est ce que j'allais dire, bah voilà, j'ai plus rien à dire, donc voilà les Cure. Point. Non, mais c'est non, mais je voulais juste en citer une qui est particulièrement qui me rend fou à chaque réécoute et pourtant j'ai vraiment épuisé, je me rappelle du vinyle qu'il y avait à la maison. Encore à l'époque, hein. Là, c'est A Forest des Cure. Bah moi je choisis ce titre pour d'ailleurs je le mets très souvent d'ailleurs c'est vrai je le mets souvent quand je suis en manuel tout seul c'est pour l'ambiance pour et puis pour le je trouve que c'est un des albums les plus épurés des Cure et qui est assez comment dire pas mélancolique enfin si un peu mélancolique en fait je crois que j'aime bien ça c'est à dire très très triste des paroles qui sont forêt enfin, ça parle de toi le mec qui est dans une forêt comme ça c'est assez angoissant en fait je trouve qu'il y a quelque chose d'assez angoissant qui me touche vraiment et quand t'écoutes le titre Forest
C'est très marrant parce que moi au début je pensais naïvement que c'était une boîte à rythme qui jouait, pas du tout. C'est un batteur qui joue comme une boîte à rythme, qui n'était pas un grand batteur d'ailleurs, qui n'est pas resté avec les Cures.
Qui est mort.
Je sais pas s'il
est tué. Il en est mort.
Et j'adore ce jeu. Bah oui, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la chanson Bedtime, c'est vraiment ce qu'on a voulu. Indirectement peut-être, je sais pas, parce que je pense pas qu'à la base on a, du moins on l'a pas écrit en pensant à ça, mais sur les arrangements de l'album, ce qui est sûr c'est que on a une batterie très très simple, avec un rythme, c'est vraiment comme ça, et le batteur des Cures a souvent ce rythme de batterie, c'est-à-dire que tu écoutes tous les titres de l'album, 17 Seconds, il est tout le temps pratiquement sur le même pattern, plus ou moins accéléré avec des tempos différents. Mais voilà, moi j'adore ça, et puis j'adore la basse qui est bien en avant, comme toujours chez les Cures, et puis les riffs de guitare de Smith et sa voix évidemment, mais les riffs de guitare qui sont mais tellement... c'est incisif, c'est tout ce qu'on... Enfin, moi j'adore, ça tranche.
Ils font des chansons en fait, aussi.
Et c'est aussi des chansons, ouais, ouais, ça, c'est vrai, c'est important. Mais voilà, moi quand je l'écoute, réellement j'ai des poils, toujours. Je l'écoute souvent, ce titre. Voilà.
Et pour revenir juste sur la chanson Lullaby, il y avait le clip qui est extraordinaire aussi. Je sais pas si, avec l'araignée là...
Ah oui, c'est vrai.
Ah, il est énorme ce clip. Il est dans son lit.
L'araignée en même temps, c'est l'histoire d'araignée qui va le
mourir. Ouais, mais voilà, je pense que ça a marqué. Ce clip m'a marqué, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'en rappellent.